Sur Radio Prévert, nous allons parler de radio. Eh oui, curieuse idée, vous vous dites, en m'entendant parler ainsi. Et maintenant, elle n'est pas si curieuse, cette idée, puisqu'en fait, on va parler d'un ouvrage qui parle de radio. Et nous sommes avec l'une des personnes qui a coordonné, en fait, la rédaction de cet ouvrage collectif. Bonjour, docteur Sébastien Poulain.
Et bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les animateurs, les journalistes, à toute l'équipe.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de Les radios locales, histoire, territoire et réseau, paru chez L'Harmattan, édition INA L'Harmattan. Quel est le prétexte pour écrire ce livre-là à plusieurs mains ?
Mais écoutez, mais justement, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que parler de la radio à la radio, ça se fait pas tant que ça. Et c'est vrai que la télé parle beaucoup de la télé, la radio parle de la télé, la presse écrite parle de la télé, mais la radio, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parfois, Laurent Ruquier a parlé un peu de la radio, il parle aussi de la presse écrite, voilà. Mais c'est vrai que globalement, on parle pas assez de la radio. Enfin, la radio valorise beaucoup les autres médias, mais n'est pas assez valorisée par les autres médias. Mais pour répondre à votre question, alors oui, effectivement, ça va dans la suite. C'est-à-dire, le média radio est peut-être pas étudié autant que la télévision, qu'Internet, que le numérique, les réseaux sociaux. On en entend parler un peu tout le temps. Et pourtant, c'est quand même un média très important qui est présent dans toute la France, dans tous les territoires métropolitains, dom-tom. C'est quand même un média très important, et notamment à travers les radios locales qui sont partout en France. Que vous avez des radios de montagne, des radios à la mer, des radios dans toutes les villes de taille moyenne, mais parfois aussi dans des toutes petites villes. Bon, il y en a sans doute plus dans les grandes métropoles, hein, mais après, le CSA, veille à avoir un équilibre entre les différents types, les différents modèles économiques de radio. Et donc, forcément, il y a des radios associatives, par exemple, il y en a vraiment partout. Et donc, là, il s'agissait, avec un travail collectif, parce qu'on peut pas, avec l'ensemble de toutes ces radios qui sont extrêmement nombreuses, c'est quand même assez difficile, en fait, de les étudier tout, de les analyser tout, c'est impossible, c'est gigantesque, autant, si on étudie RTL, il y a des livres, l'histoire d'RTL, il y a l'histoire de France Inter, les grandes radios, il y a des historiens qui ont fait leur thèse sur ce sujet. Mais bon, les radios locales, on sait pas par quoi commencer, tellement il y en a, et donc, c'est pareil, pour une seule personne, pour un seul chercheur, c'est difficile d'avoir un peu une vue globale. Alors que là, bon, quand on commence un peu à thématiser la recherche, à trouver des problématiques spécifiques, on peut au moins en approcher certaines idées, certains concepts. Évidemment, c'est l'ampleur est infinie. Je veux dire, ça pourrait prendre des années. Il faudrait créer un dictionnaire géant de la radio. Et donc nous, on a des spécialistes de la radio, des passionnés de radio, des historiens de la radio, des archivistes, des journalistes, des anciens directeurs de médias. On a des spécialistes plutôt de communication, des historiens. Et puis on a différents territoires qui sont étudiés. Ça peut être y compris en dehors de la France d'ailleurs, puisqu'il y a le Congo qui est étudié, il y a aussi la Belgique, puis il y a les dom-toms. Il y a pas plusieurs articles sur les dom-toms, parce que c'est vrai que on est toujours très métropolitano-centré et souvent très parisiano-centré aussi. Et là, pour le coup, là vraiment, on visite les territoires, on réfléchit sur les territoires, sur le lien entre la radio et le territoire, le patrimoine local, etc. Donc ça permet un peu d'ouvrir, quoi.
Alors justement, ouvrons, Sébastien Poulain, disons que vous avez coordonné cet ouvrage collectif à deux avec Thierry Lefebvre, qui, comme vous, a une particularité, c'est celle d'avoir déjà écrit sur la radio. Vous en parlez donc en tant que passionné. Et puis, le moment était tout trouvé, puisque nous célébrons cette année les 60 ans des lancements des premières stations radio, puisque on n'est pas loin de 1981. Ça paraît déjà loin, mais on est toujours aussi proche.
Écoutez, oui, c'est vraiment un moment très important dans l'ensemble de l'histoire des médias. C'est un des moments les plus importants dans l'histoire de l'ensemble des médias, et en particulier des médias audiovisuels. et en particulier évidemment de la radio, et en particulier de la radio locale, puisque c'est vrai qu'avant on avait un monopole d'État, et donc il était totalement interdit de diffuser depuis la France, c'est-à-dire de mettre un émetteur au sein d'un territoire, du territoire métropolitain, ou enfin, peu importe, dans les dom-toms, c'est pareil. Seul l'État avait le droit d'installer des émetteurs et de diffuser, de la FM ou peu importe. Il y avait déjà de la FM, hein, ça faut le savoir. Il y avait déjà des formes de, finalement, de radio locale avec France Musique, notamment. Il y avait une expérimentation dès les années 50, je crois, 60. C'est vrai que la FM a un bon son, donc pour France Musique, c'est plutôt bien adapté. Mais c'était interdit pour tout autre, et donc tous les autres, on avait les périphériques, évidemment, les trois quatre grandes radios commerciales qui émettaient depuis en dehors de la France. L'émetteur était situé, soit à Monaco, Monte Carlo, Radio Monte Carlo, soit dans le Nord. Enfin, il y avait aussi Radio Andorre, Radio Andorre, et puis il y avait aussi donc Europe 1 au Nord-Est avec RTL, le Luxembourg. Donc grand événement, parce que effectivement c'est le début de la démocratisation des médias. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous un média, on a tous un compte Twitter, un compte Facebook, on est tous des formes de médias, on est tous en train de communiquer les uns avec les autres. Mais à l'époque, faut se souvenir comme ça, quand on a 4-5 radios et les télévisions, une ou deux télévisions, c'était un peu miséreux quand même, hein. Bon, évidemment, il y avait la presse écrite, hein, vous allez me dire, il y avait la presse écrite, mais c'est vrai qu'au niveau audiovisuel, au niveau du choix, c'était pas un choix énorme. Bon, il y avait vraiment une très grande attente depuis mai 68 de pouvoir enfin s'exprimer. Et puis toujours dans l'idée, que ce soit tous les territoires, que ce soit tous les citoyens qui puissent avoir accès, pas seulement les Parisiens, parce qu'il y avait vraiment, c'était très centralisé. Bon, c'est vrai, en France, on est très jacobin. Donc tous les studios sont tous à Paris, les studios étaient tous à Paris autour des Champs-Élysées, vers les Champs-Élysées, RTL, Europe 1, ils avaient tous les studios au même endroit, évidemment pour être proche du pouvoir aussi, pour pouvoir interviewer les hommes politiques. Donc les émetteurs étaient à l'étranger, mais par contre les studios étaient en grande partie à Paris, parce que évidemment c'était quand même des radios françaises avec des invités, des animateurs, des journalistes français. Mais tout était à Paris. Donc alors qu'à partir de la bataille des radios libres, où là on a déjà à partir de 75-77 des radios qui émettent un peu partout en France dans un combat contre le monopole justement. Donc là, on a les premières radios, mais bon, c'est des radios qui émettent vraiment temporairement quelques minutes, le temps avant de se faire brouiller par la police, avant de se faire saisir par la police ou de se faire brouiller par TDF. En fait, c'est devenu TDI finalement qui l'a fait, parce que TDF n'était pas d'accord avec le brouillage. Mais bon, bref, avant d'être brouillé, il y avait quelques émissions par-ci par-là qui étaient annoncées dans la presse écrite justement pour dire « Ah oui, à telle heure, à 23h, il va y avoir une émission dans tel lieu, venez participer ou venez simplement écouter, sur telle fréquence. » Donc il y avait quelques radios qui émettaient, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui, avec des radios bien installées, avec pignon sur rue, comme là où vous êtes, avec des vrais studios. C'était vraiment de l'expérimentation, on se déplaçait avec l'antenne, c'était vraiment un autre univers. Hein. Donc à 81, la loi, donc 9 novembre, bon, Mitterrand avait fait déjà un peu de radio libre lui-même, il avait fait Radio Riposte, et puis bon, lui, il aurait préféré des radios municipales, les radios peut-être publiques, il s'inquiétait peut-être, comme Valéry Giscard d'Estaing à sa place, juste avant, il voulait pas trop avoir des grandes radios d'opposition, parce que lui-même, la Radio Riposte était la radio du Parti Socialiste, et bon, elle était mise juste à Paris, mais déjà, c'était un cataclysme, hein, parce que la police était venue dans les locaux, avait arrêté tout le monde, ils ont été attaqués en justice, donc vraiment c'était quelque chose. La simple émission, c'était un bouleversement. Aujourd'hui on en rigole, mais à l'époque c'était vraiment la gendarmerie qui pouvait débarquer chez vous et saisir tout votre matériel. Et donc là 81. Mitterrand, il autorise, fait une dérogation au monopole. C'est une dérogation. Il n'y a pas encore vraiment d'autorisation, hein, mais c'est déjà un premier temps, une loi de dérogation au monopole. et donc toutes les radios en profitent. Mais en fait, elles avaient déjà commencé à en profiter dès mai, dès l'élection. Les radios commerciales commençaient déjà, la future Skyrock a commencé déjà à naître dès le 10 mai, dès les élections de Mitterrand. Tout le monde pensait qu'avec Mitterrand, ça y est, c'était fait. Alors que lui-même n'était pas totalement pour, hein, mais bon. Voilà, et donc après, il y a eu un rapport de force permanent avec toutes ces radios, et puis les radios commerciales forcément ont commencé à émettre un peu plus fortement que les autres, un peu plus fortement que ce qui était prévu dans la loi. Il était prévu que ça émette à 30 km seulement, vous voyez, 30 km, une radio qui émet 30 km, bon ben voilà, c'est une radio locale d'aujourd'hui, c'est à peu près, voilà, c'est des petites distances comme ça, mais certaines, elles voulaient émettre sur toute la France, donc c'est un peu plus que 30 km. Hein, donc ben, c'est ce qu'elles ont fait petit à petit, et puis elles voulaient avoir leurs propres moyens, être autonomes, donc elles ont demandé à avoir de la publicité, elles ont demandé à monter en réseau, voilà, avoir des gros émetteurs puissants, pour voilà, écouter partout et pour trouver un modèle économique en dehors de la subvention. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a vraiment un mode binaire ou ternaire, on va dire, puisqu'il y a les radios publiques d'un côté, les radios commerciales d'un autre avec la publicité, et puis les radios associatives qui, elles, ont eu aussi des difficultés avant d'avoir un modèle économique, mais elles l'ont eu petit à petit avec un fonds d'expression radiophonique qui s'est développé, voilà, qui atteint aujourd'hui 30 millions, donc c'est 30 millions, mais à diviser parmi beaucoup, beaucoup de radios, donc c'est pas, ça paraît une grosse somme comme ça, mais c'est pas tant que ça, en fait, quand on regarde par radio.
Eh oui, je vous entends et je bois du petit lait entre la grande histoire et puis les contingences d'aujourd'hui, puisque vous faisiez allusion à l'instant à ce qui finance en majorité nos radios associatives, puisque Radio Prévert a commencé à émettre dès 1983 et aujourd'hui, on était il y a quelques jours au congrès de la Confédération nationale des radios associatives, cette évolution de nos radios avec ce qu'il se passe aujourd'hui, la convergence des médias, les usages qui changent, docteur Sébastien Poulain, c'est aussi un des enjeux. Après, le modèle économique à trouver, il faut aussi s'adapter. Vous en parlez dans cet ouvrage collectif que vous avez coordonné avec Thierry Lefebvre et paru donc aux éditions Inalarmatan, les radios locales, histoire, territoire et réseau.
Oui, 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 tout à fait, on en parle. Moi, je tiens à mon petit concept de post-radiomorphose que j'utilise dès que je peux. Et donc voilà, ça y est, je le dis. Mais oui, post-radiomorphose, ça concerne tout le monde. Et c'est le fait qu'effectivement, par rapport à la radio du 20e siècle, oui, on peut dire ça, du 20e siècle, bon, on est passé à la radio du 21e siècle petit à petit, déjà dans les années 2000, surtout 2010, on va dire. Mais voilà, déjà... Le premier blog, le premier site internet, le premier réseau social, les premiers podcasts, et ça concerne toutes les radios. Elles ont eu toutes du mal. J'avais écrit à l'époque un article où je disais que même les grandes radios qui étaient mises un peu doucement avaient un peu de retard. La radio, voilà, c'est vrai que la radio, c'est le son, c'est l'écoute. Alors pourquoi aller sur internet? On se posait la question. Ben non, nous, on est dans le sonore. Donc pourquoi aller sur Internet? On va laisser les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une injonction extrêmement puissante. C'est impossible de l'éviter. C'est l'obligation d'être sur Internet, d'avoir au minimum un site Internet, d'avoir quelques informations sur la radio, voilà, pour se faire connaître un minimum après. Et puis, forcément, pour se faire écouter au-delà du territoire d'émission, pour rendre les choses un peu plus vivantes, pour avoir un contact, pour donner d'autres types d'informations, parce que le programme, par exemple, le programme de chaque radio, on peut pas le trouver comme ça facilement, et donc alors avec un site internet, voilà, on a au moins un petit programme de base. Après, ça peut évoluer dans la semaine, etc., mais au moins on peut savoir tout d'un coup tout ce qu'il y a sur cette radio, avoir des informations à quelle heure, quelle émission est écoutée, est-ce qu'il y a une émission de jazz, est-ce que il y a une grande variété de programmes. Et c'est vrai qu'on peut pas, rien que pour avoir ce programme, c'est quand même très intéressant, avoir un contact permanent, avoir des échanges et pouvoir écrire à la radio, pouvoir les contacter. Et donc, c'est vraiment très, très utile. Et donc, et aussi les podcasts, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas écouter la radio en direct parce qu'on est soit au travail, et pourtant, il y a des podcasts passionnants avec des émissions ultra spécialisées. Je connais une émission, sur la musique de film, par exemple, ça n'existe sur aucune grande radio. Ça existe que sur des radios locales. Il y a plein d'émissions, qui sont très spécialisées. Et donc, pour les connaître, c'est vraiment utile d'avoir une connexion via Internet. Après, évidemment, la radio, ça reste de la radio. Et donc, il faut quand même qu'on puisse l'écouter dans la voiture, parce que vous savez qu'on écoute beaucoup la radio dans la voiture, en sortant du travail, en partant en week-end. C'est très pratique. Et c'est une audience massive qui se fait dans la voiture, même si on peut écouter chez soi. En tout cas, le moment de déplacement, on marche en forêt, etc. Écouter la radio, c'est quand même très pratique. Et ensuite, il n'y a pas toujours accès à Internet partout. Il y a une accumulation de technologies et il faut y être. Alors c'est vrai que ça a un coût pour certaines radios, elles se payent parce que effectivement, quand on est diffusé à la fois en mode hertzien classique, la radio du 20e siècle, et en plus les podcasts, et en plus le site internet, et tout ça, ça coûte de l'argent. Créer un site internet, c'est quand même, si on veut avoir un beau site internet, c'est un budget pour une radio locale qui, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas des financements gigantesques. Donc, il faut prendre en considération le modèle économique aussi, toujours.
Et demain, on parlera de la radio numérique terrestre. On en parle déjà pour certaines radios qui ont déjà commencé à émettre dans ce nouveau mode technique.
Mais oui, alors vous savez qu'on en parle depuis 20 ans. On en parle depuis 20 ans de la radio numérique terrestre. Elle a un petit peu du mal à arriver quand même, il faut bien le dire. Et pourquoi? Tout simplement parce que il y a des grandes radios qui n'étaient pas forcément d'accord pour l'arrivée de la RNT, parce que tout simplement c'est ce qu'on appelle l'économie d'attention. Sur un territoire, maintenant vous avez accès à Internet, vous avez accès à la radio, la télévision, tous les médias s'accumulent les uns les autres, mais nos cerveaux, ils ne peuvent pas se diviser. Donc, c'est vrai que soit vous écoutez une radio, soit vous écoutez une autre. Vous pouvez pas, je pense qu'on ne peut pas trop écouter deux radios en même temps. Ce qui fait que la RNT, l'utilité, c'est avant tout d'avoir un peu plus de radio, d'avoir un peu des données associées. On peut savoir quelle est la musique. Quel est le nom du chanteur, etc. Vous voyez des petites infos. C'est pas une révolution, la RNT. Le son est un bon son, mais c'est pas non plus une révolution, même au niveau du son. C'est un peu mieux, mais ça apporte avant tout de la concurrence. Donc, ce qui fait que les grandes radios nationales, elles ont fait du lobbying, il faut bien le dire, pour empêcher le développement de cette radio, parce que évidemment ça fait moins d'audience, moins de publicité, donc c'est des problèmes pour le modèle économique. Et on a vu ce qui s'est passé avec la TNT, donc on a déjà un peu une idée de ce qui va arriver avec la RNT, parce que la TNT, effectivement, il y a eu plein de nouvelles chaînes de télévision. Et parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait 5-6 chaînes de télévision avant la TNT. Effectivement, les audiences se sont complètement, se sont effondrées, ont beaucoup diminué, on va dire, pour les chaînes de télévision traditionnelles. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que ces chaînes ont racheté les autres petites chaînes pour, à défaut de tout avoir, d'avoir toute l'audience sur une seule chaîne, elle est divisée sur les petites chaînes de la TNT. Finalement, c'est les grands groupes qui finalement sont propriétaires de la plupart des chaînes, mais elles ont dû trouver une nouvelle stratégie. Donc c'est peut-être ce qui va se passer avec la RNT. Toutes les radios, certaines radios vont se faire à nouveau racheter. Il y a des phénomènes de concentration. Vous avez vu ce qui se passe entre M6, TF1. Ça va continuer. Europe 1, c'est pareil. Il y a des phénomènes de concentration, parce que c'est vrai que c'est difficile face au Google, face au Facebook, qui récupère toute la publicité en ligne, qui récupère une grande partie de l'ensemble de la publicité. C'est vrai que pour ceux qui sont financés par la publicité, c'est compliqué. Après, pour les radios locales, ça change pas tant de choses que ça, parce que elles vont continuer de vivre une vie normale. Mais c'est vrai que ça, le fait de les diffuser à la fois en RNT et en radio classique, avec les ondes classiques hertziennes, c'est une double émission. C'est un coût dans un budget d'une radio locale. Et donc, parce qu'en fait, ça va pas s'arrêter tout de suite, parce qu'il faut pour que tout le monde renouvelle l'ensemble de ces postes à transistor, pour que tout le monde ait son poste à transistor, parce que c'est un poste spécifique, c'est un poste numérique, c'est une sorte de micro, un petit ordinateur, finalement, c'est un outil numérique. Et donc, il faudrait que tout le monde jette à la poubelle son ancien poste, et que tout le monde, une grande partie de la population, ait les nouveaux postes de RNT. Donc ça va prendre du temps, parce que ça coûte de l'argent. D'ailleurs, les récepteurs sont un peu plus chers que les récepteurs classiques. Donc voilà, donc on va pas passer au tout RNT avant tout de suite. Et puis à ce stade, pour l'instant, c'est les grandes métropoles justement, parce que c'est plus, peut-être plus rentable économiquement. Donc voilà, il y a quelques grandes villes qui sont passées à l'RNT, Paris, toujours, voilà, toutes les grandes métropoles, et puis aussi les autoroutes qui sont passées, mais avant que ça se diffuse dans toute la France, et on en est loin, et on voit à l'étranger que c'est à peu près la même chose. C'est très difficile de passer au tout RNT. Hein.
Alors justement, docteur Sébastien Poulain, dans votre ouvrage donc dont nous parlons aujourd'hui sur Radio Prévert, l'ouvrage intitulé « Les radios locales, histoire, territoire et réseau » paru aux éditions INA L'Harmattan, vous dites aussi tout simplement que les radios locales irriguent les territoires et créent du lien social et participent à la démocratisation des médias. C'est des concepts qui sont des concepts importants à vos yeux.
Et oui, c'est fondamental. Donc c'est vrai. Voilà, l'année 81. Donc c'est vraiment un phénomène. Enfin, là, il y a un phénomène de démocratisation puissant puisque tout le monde effectivement peut créer sa radio assez facilement avec des budgets qui sont voilà pas si importants que ça. Du moins, voilà, pour émettre, c'est pas si compliqué que ça. Techniquement, c'est voilà, il y a une diminution du coût technique, économique par rapport à ce qui se passait avant, par rapport aussi par rapport à la presse. La presse, évidemment, c'est très compliqué voilà d'avoir de lancer un journal, etc. Alors que voilà, la radio, bon, tout d'un coup, c'est plus accessible, hein, d'où les radios libres, et donc après les radios locales. Bon, les radios locales, c'est pareil. À partir du moment où on forme un groupe, à partir du moment où on est connecté un peu, je sais pas, à une organisation, à une mairie, à une association locale, tout d'un coup, si on nous prête un lieu, un espace, on peut faire de ce lieu un studio. Ça peut être un collège, ça peut être un lycée, ça peut être un hôpital. C'est extrêmement varié. C'est pour ça que c'est très difficile d'en parler en général. C'est vraiment extrêmement varié. On peut pas imaginer toutes les possibilités. Voyez les MJC, vraiment les hôpitaux aussi. Tout est possible sur le territoire. Il y a des radios qui émettent à temps complet, d'autres à temps partiel juste l'été. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié. Et effectivement, la démocratisation, c'est le fait que quelqu'un qui n'a pas fait de formation dans le monde de la radio, qui n'a pas fait, à l'époque, il n'y avait même pas d'école d'ailleurs pour faire de la radio. Hein, on était formé, on se formait tout seul. C'était assez facile et ça continue comme ça. C'est-à-dire vous commencez à être bénévole, éventuellement après vous pouvez être stagiaire, vous pouvez commencer une carrière de journaliste, avoir votre carte de presse, vous pouvez apprendre la technique ou rester un simple animateur passionné qui va faire ce qu'il adore, sa passion et parler de sa passion, avoir ses invités. Et ça, c'est la magie. C'est extrêmement accessible. Et puis c'est des projets collectifs, c'est-à-dire c'est une équipe. Voilà, c'est une équipe qui se réunit. C'est une association, c'est une vie associative. Donc il y a une dimension très démocratique. Il y a un apprentissage de la vie collective. Il y a un apprentissage de la parole, développement de compétences, de multiples compétences. Ne serait-ce qu'apprendre à parler. On oublie toujours ça, mais parler en public, parler à la radio. C'est quelque chose qui peut effrayer, qui effraie de larges populations. Hein, c'est vraiment pas quelque chose de très facile hein, de parler comme ça devant un micro. Il y a des personnes qui n'arrivent tout simplement pas à sortir un mot tout simplement. C'est une compétence fondamentale dans la vie de n'importe quel, dans la vie professionnelle. Parler en public, argumenter, tout ça, préparer, faire de l'improvisation aussi. C'est quelque chose qui est vraiment très utile. Et donc là, c'est vraiment l'accessibilité. On peut y venir, on est chez soi, on a son émission pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures. Il y a de multiples possibilités sur sa spécialité. On peut aider les autres. C'est des projets. C'est un groupe parce qu'il faut travailler forcément avec le technicien. Bon, certaines personnes arrivent à tout faire à la fois animateur, technicien, etc. Mais il y a aussi des émissions où c'est une équipe de 10, 20 personnes juste pour une heure et ils se relaient chaque semaine. Enfin, il y a vraiment une très grande variété de possibilités. Et donc on peut commencer à faire sa carrière dans les radios locales parce que c'est aussi sa philosophie, la philosophie locale, la philosophie associative qui plaît davantage que d'aller dans les radios commerciales où là, bon, c'est une autre vie professionnelle, c'est pas du tout, on va passer de la musique, il y aura quelques jeux, mais il y aura pas beaucoup de dialogue, et ça sera, voilà, pas de culture, ou peu de culture. Donc voilà, donc c'est les avantages des radios locales associatives, qui sont multiples, hein.
Eh oui, et puis vous, on le sent, vous êtes un véritable passionné. Et pour après, bah, vous êtes déjà dans le coup d'après, puisque pour la revue Radiomorphose dont vous avez parlé il y a quelque temps, donc dans cet entretien, il y a une publication qui arrive bientôt, et avec la collaboration de Thierry Lefebvre.
Et oui, oui, tout à fait. Thierry Lefebvre, donc un grand historien de la radio, hein, qui a déjà écrit 3, 4, 5 livres, je ne les compte plus. Et en plus, vous savez qu'il est, il a une double spécialité. Il s'occupe aussi de tout ce qui est santé médicale, l'histoire des sciences. Donc, il a vraiment une double spécialité. Donc, il a beaucoup parlé des radios libres, mais aussi de Carbone 14, qui est une radio dont on a tous entendu parler à un moment ou un autre, parce que c'était vraiment une radio très innovante et très, très amusante. Malheureusement, qu'il n'y a pas eu d'autorisation au moment où vous avez commencé à émettre vous. Eh ben, elle s'est éteinte, elle, malheureusement, parce que, voilà, elle était peut-être un peu trop alternative, je sais pas, un peu trop politisée, ou un peu trop, voilà, elle plaisait pas beaucoup au pouvoir. Mais oui, oui, donc, justement, à propos de ça, oui, c'est la thématique, c'est radio et mobilisation, donc les formes de mobilisation, comment ces radios participent à la démocratisation, toujours, comment elles peuvent se faire du militantisme politique, et donc à toute période de l'histoire, voilà, il y a des radios qui sont très militantes, ensuite il y a des radios qui sont pas en soi très militantes, mais qui ont des émissions par-ci par-là qui sont militantes, voilà, des émissions avec des ONG, des émissions voilà, Reporters sans frontières, des gens comme ça ont eu des émissions, et donc voilà, tout au long de l'histoire, il y a eu des différentes formes de mobilisation, évidemment à l'étranger aussi, on en parle beaucoup. Voilà, on aura sans doute un article sur à l'époque la radio en Algérie, comment ils se sont mobilisés pour prendre l'autonomie par rapport à la France. C'est un peu l'année encore de l'anniversaire qui arrive, voilà, pour l'indépendance de l'Algérie. On aura, voilà, différents articles, mais bon, là je peux pas trop en parler parce que c'est pas fini, mais ça arrivera bientôt, début 2022, je pense.
Eh bien, on va surveiller tout ça, et ça nous intéresse en tant que radio associative locale, puisque, vous l'avez dit, nos radios participent au lien social, donc il est important aussi de voir dans quel cadre placer la mobilisation, la sensibilisation, informer, distraire, éduquer aussi, et puis à l'ère aussi aujourd'hui des réseaux sociaux, entre autres, où les radios se posent des questions sur comment se positionner justement par rapport à cette avancée technologique. Donc ça fait sens aussi à ce que vous annoncez là pour la revue Radiomorphose, j'imagine.
Oui, tout à fait. Il y a plein de formes de mobilisation pour aider le territoire. Le patrimoine, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le patrimoine aussi, c'est très important. Par exemple, il y a des langues locales qui ne sont parlées finalement qu'entre soi ou à la radio. Donc toutes les formes de culture, c'est aussi une forme de mobilisation, mobiliser pour sauvegarder un patrimoine, une culture locale, se valoriser les activités locales du territoire, les projets, les événements qui ont besoin, voilà, qui c'est une fierté aussi, vous savez, de participer à une émission de radio, voilà, quelques minutes, voilà, quand une radio vient interviewer lors d'un événement, ça fait partie de la communication de l'événement, et tout le monde est très heureux. Donc voilà, ça c'est une fierté. C'est très utile pour chacun, pour se valoriser, pour valoriser ses projets, valoriser le territoire en général.
Tout à fait. Et on sera donc encore une fois avec vous lorsque paraîtra le prochain numéro de la revue Radiomorphose intitulé Radio et mobilisation, pour vous entendre raconter aux auditeurs l'essentiel donc de ce que seront les différents articles qui seront donc dans ce nouveau numéro de la revue Radiomorphose. On peut renvoyer les auditeurs à la lecture donc de l'ouvrage collectif que vous avez coordonné en compagnie de Monsieur Lefebvre, hein, on va dire Monsieur Lefebvre, Thierry de son prénom, Thierry Lefebvre, et vous, docteur Sébastien Poulain, donc pour les radios locales, histoire, territoire et réseau, paru aux éditions INA L'Harmattan, avec différentes entrées. On en a parlé et on continuera d'en parler sur Radio Prévert. Vous êtes un passionné, nous aussi. Et puis, on peut le dire, à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Avec grand plaisir, c'est promis. On vous entendra parler de radio sur Radio Prévert. Vous avez fait une remarque très juste. La radio parle beaucoup de la télé et pas du tout, très peu de la radio. Eh bien, nous, sur Radio Prévert, on va relever ce défi-là. C'est un challenge qui nous intéresse. Parler de la radio à la radio. Merci beaucoup, docteur Sébastien Poulain.
Merci à vous.